À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, à la Bouffetify. Elle a été une des invitées d'un des plus beaux studios 101 qu'on a eu cette saison. Gabriella.
Ben bonjour, Luc.
Allô, comment vas-tu?
Ça va super bien. Je suis super contente de voir tout le monde. Vous avez de l'air bien, puis la soupe était très bonne.
Mais comment il est arrivé cette idée-là de faire un show solo?
Ben, au début, il y avait une petite contrainte parce que je voyage beaucoup en Europe. De plus en plus, j'ai des opportunités en Europe.
Puis tu places un band à chaque fois, ben, que les gens soient disponibles aussi.
Oui, c'est ça. Êtes-vous disponible? OK, parfait. Billet d'avion, chambre d'hôtel. Puis là, parfois, je suis arrivée dans des événements que demain matin, il fallait que je sois présente, il fallait que j'aie des chansons de prête. Puis là, je me suis dit, je vais acquérir cette autonomie qui va me permettre d'avoir des musiciens en bonus quand je veux en avoir, puis pas une nécessité. Donc là, ça m'a vraiment permis d'être autonome par rapport à ça. Puis j'adore faire ça. C'est sûr que j'adore jouer avec des musiciens aussi, mais maintenant, je vais avoir le luxe de pouvoir décider ce que j'ai envie de faire.
Et d'ailleurs, on parle d'Europe, mais juste avant les fêtes, t'es allé en Russie.
Oui!
C'était comment cette expérience-là? Parce que là, on sait qu'avec The Voice, ça a développé beaucoup le marché.
Ouais.
Francophones européens là, qui t'ont vu, bien, en plus avec la vidéo sur YouTube qui a eu plusieurs millions de views. Là, la Russie, c'est autre chose. Là. Ça parle pas français. Donc, ils t'ont probablement découvert comme ça aussi. Mais c'était comment cette expérience-là?
D'ailleurs, je suis vraiment désolée parce que j'étais censée en décembre venir ici. Puis là, on m'offre deux concerts en Russie. Puis là, je me disais, bon, OK, là, je m'en vais à Sorel. Est-ce que je peux me permettre d'aller en Russie? Puis finalement, Luc, t'as très bien compris. Merci vraiment beaucoup.
Ça fait plaisir.
Comme ça, là, j'ai pu faire les deux. C'est ça, la beauté du web. J'ai eu la chance unique d'avoir une vidéo qui a fait le tour du monde sur le web. Donc, il y a eu 250 millions de visionnements. Donc, c'est pas seulement à travers la francophonie. Ça a été vraiment partout. Donc, ça m'a permis de faire des concerts au Mexique, des concerts aux États-Unis, des concerts maintenant en Russie. Parce que il y avait World Fashion Channel, qui est un poste de mode, qui avait besoin d'un artiste invité pour leur soirée privée avec tous leurs clients à travers le monde. Puis là, ils m'ont demandé de le faire avec mes chansons en français. Écoute, j'ai fait « Go, j'y vais ». Je suis arrivée là-bas. C'est vraiment un autre monde totalement. J'ai pas vraiment vu la Russie en tant que telle parce que t'es là 3 jours, t'es avec le petit pourcentage des gens qui sont capables de s'acheter des fourrures en renard, tu sais.
Ah oui. Ouais, Fashion Week est avec du monde qui a de l'argent.
Ben oui, c'est ça. Puis, mais j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai quelques mots en russe, puis ça m'a permis de reconstater que la musique, ça a pas de barrière de langue. Peu importe si tu chantes en espagnol, en anglais, en chinois.
C'est l'émotion, en fait.
Ben, c'est l'émotion, puis tout le monde, ça parle à tout le monde, la musique. Puis c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir voyager vraiment avec ça. Puis une chance que j'aime l'avion, parce que sinon, ça serait long.
Surtout que tu es souvent en avion.
Oui.
Est-ce que ça devient difficile, ça? Parce que là, il y a une carrière ici, il y a toute la carrière en Europe, donc tu fais des allers-retours presque constants.
Ouais, puis il faut vraiment que je replante plein d'arbres cette année, c'est au programme.
Oui.
Mais je fais pas mal un mois à Paris, un mois ici. Puis moi, j'adore ça parce que, tu sais, quand on y pense, là, mettons, aller à Rouyn-Noranda, là, c'est 10 heures de route, là. Tu sais, Paris, c'est juste 6 heures, là.
Oui,
ça passe quand même vite, là, tu sais.
C'est juste que t'es dans les aéroports. Constamment.
Ouais, mais il y a quelque chose. Je trouve que les aéroports, ça sent bon. Je sais pas pour vous, là, mais on arrive dans l'aéroport, puis t'as l'impression qu'il y a plus personne qui t'attend. Puis là, il y a l'avion là, qui t'attend.
Oui.
Mais t'as l'impression d'être vraiment libre. Là, tu t'en vas, tu vis une expérience, tu rencontres des gens qui sont aussi en mouvement comme toi. Puis ce que j'aime vraiment du voyage, c'est que t'es toujours alerte. Si t'es dans ton quotidien, des fois, tu sais, tu te rends pas nécessairement compte des gens qui t'entourent ou peu importe, mais quand tu es en voyage, tu observes là, les différences. Donc, c'est vraiment extrêmement enrichissant.
À 250 millions de views pour The Scientist sur YouTube, est-ce que tu sais si Coldplay a vu ta vidéo ou si l'équipe de Coldplay a vu ta vidéo?
Écoute, s'ils n'ont pas vu la vidéo, c'est parce qu'ils ne regardent vraiment pas Internet, parce que je suis vraiment référencée partout. Écoute,
t'as pas eu de message
de
l'équipe ou quelque chose.
J'ai pas eu rien. En 2016 ou 2017, ils sont venus au Centre Bell. Puis là, je leur avais écrit un petit message, hein, qui ne risque rien à rien. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis libre, j'ai mon violon, si jamais ça vous tente. Mais bon, je caresse ce petit rêve quand même. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de beau aussi à se demander s'il a vu la vidéo, tu sais.
Il y a un mystère.
Ben oui, c'est sûr. Puis j'ai plein d'autres choses qui se passent, mais... Ah, effectivement, écoute, ça serait tellement le fun. Chris Martin, hello Gabriella, I know you're in Sorel, but I just want to tell you, I loved your audition. Thank you.
Est-ce qu'il y a eu un avant et un après The Voice? Clairement oui, j'imagine.
Ah oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Premièrement, c'était la première fois que j'allais en Europe. Maintenant, j'ai mon appartement là-bas, j'ai mes amis là-bas. C'est sûr que ça change une vie. Bon, j'habite encore à Saint-Basile ici. Mais, tu sais, la découverte du monde, là, je parle encore de voyage, mais c'est parce que c'est quelque chose de très, très, très prenant vu que c'était à l'autre bout du monde. Ça m'a permis de faire des concerts beaucoup. La première tournée Story of Oak, on a fait 180 concerts à travers le Québec. Puis peu importe où on voyage, pour moi, le Québec, de faire des concerts puis de voyager au Québec, c'est ce que j'aime le plus au bout du compte. Parce que c'est chez moi, qu'il y a quelque chose de magique. Donc ça m'a permis vraiment d'être un peu partout puis de pouvoir avoir le privilège de choisir les gens avec qui je voulais travailler. Ça, c'est vraiment très important. De travailler avec ses meilleurs amis.
Et depuis le début, il y a Christian Sbroka, qu'on connaît bien ici, qui a joué au hockey ici.
Il était la star de Sorel.
Comment il est arrivé dans le projet? Parce qu'il est là depuis le début. On a parlé de The Voice, mais il était là bien avant. Il était là au premier album, Christian.
Oui. Ça fait 7 ans que je travaille avec Chris. Ça va faire 7 ans en mai. Ça passe vite. Puis, tu sais, après 7 ans, tu sais... C'est comme 7 ans, c'est quand même une belle relation de travail. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais 19 ans. Puis Chris, en fait, je lui ai suggéré une chanson, une composition, puis il a tout de suite vu quelque chose. Puis Chris, il fait pas les choses à moitié, c'est un intense, là, mais lui, il privilégie l'émotion, puis il a fait ressortir en moi toutes les émotions que je pouvais sortir d'une musique. Puis après 7 ans, c'est le fun parce qu'on... On évolue, puis il y a plein de choses qui se passent. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, tu sais. C'est presque comme un couple, parce qu'on se voit 5 fois par semaine pour travailler ensemble, depuis 7 ans, tu sais. On a une compagnie ensemble. Donc là, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu des voyages exceptionnels. En ce moment, il est à Montréal. Il a son concert au ministère, donc là, il m'invite à chanter ce soir. Puis, je sais pas, après 7 ans, tu te dis, mon Dieu, on a tout traversé, puis... t'as envie de faire un autre 7 ans, t'as envie de composer plein d'autres belles chansons. Les chansons dont je suis plus fière, c'est avec Chris que je les ai faites. Mon Dieu, écoute, c'est plate qu'il soit pas là. T'as-tu l'entrevue enregistrée quelque part pour que
qu'il l'entende? Gabriella, c'est à 6 ans que t'as commencé à jouer du violon. Inscription par tes parents, j'imagine?
Ah non, c'était pas...
C'est toi?
C'est toi qui voulais jouer
du violon?
Oui.
C'est arrivé comment?
Mais ma mère jouait du violon, très mal. Mais vraiment, vraiment. Elle était pas très bonne. Puis, elle me parlait souvent d'Angèle Dubeau.
Oui. Okay?
J'avais l'album, comment ça s'appelle? Les violons du diable, la Pietà, d'Angèle Dubeau. Puis je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Et à 6 ans, ma mère m'a amenée à Saint-Bruno voir un concert d'Angèle Dubeau.
Oh wow.
Puis, ça a changé ma vie. Je me rappellerai de ce moment-là toute ma vie. Là, j'avais le bouquet de fleurs. Là, puis là, à la fin du concert, là, je m'en vais lui donner les fleurs. Puis, elle était tellement belle. Puis, ce que j'aime du violon, c'est que il y a comme... Tout le corps est impliqué. Puis, c'est extrêmement... C'est fusionnel. Là. J'adore... cet instrument-là depuis tellement longtemps. Puis ensuite de ça, dans la loge, elle m'a amené dans la loge puis elle m'a fait essayer son Stradivarius. Donc, premier violon que j'ai essayé, c'était genre un Stradivarius.
Je peux juste être déçu, après.
Mais peu importe l'instrument, si tu joues mal, tu joues mal. Hein.
Oui,
c'est comme peu importe s'il y a un beau gars, s'il embrasse mal, il embrasse mal. Hein. C'est la même chose, tu sais. Donc, le lendemain matin, j'avais un violon dans les mains. J'ai dit à ma mère, « Maman, je veux être disciplinée. Peu importe ce qui arrive, fais-moi faire mes répétitions. » Donc, Écoute, au début, c'était dur. Là, je me cachais dans le garde-robe. Je voulais pas faire... Parce que c'est vraiment le violon là, pendant
les trois... Tu pratiquais dans le garde-robe?
Non, je me cachais pour pas pratiquer.
Tu te cachais carrément? Okay, tu voulais pas pratiquer. Okay.
Mais tu sais, il y avait des fois où... C'est parce que c'est difficile d'être assidu, surtout quand tu as 6 ans, 7 ans. Puis ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait dessiné un gros thermomètre. OK? Puis là, il y avait des petites coches à cocher de 15 minutes de répétition. Fait que là, elle remplissait le thermomètre. Puis là, à la fin du thermomètre, ben là, j'avais une surprise. Puis là, ça me motivait. Ça m'a motivé pendant 3 ans, jusqu'à temps que tu découvres que, oh, là, tu peux sortir des beaux sons, tu peux vraiment faire des pièces, tu peux faire quelque chose de beau, tu sais.
Et à 11 ans, arrive le chant.
Ouais.
Est-ce que c'est ça? Après une blessure qui faisait que tu ne peux plus jouer de violon? Est-ce que j'ai bien cherché?
Oui, t'as bien cherché, mais en fait, la vérité, c'est que quand j'avais 1 an, je faisais la la la. J'adorais ça. Quand j'avais 5 ans, j'écoutais Il suffisait d'aimer en cassette de Céline Dion.
OK.
Mais quand t'as 6 ans, les petites filles veulent être soit princesse, soit jouer dans les films, ou soit être chanteuse.
Oui.
Puis moi, je me disais, ah, je vais me démarquer, je vais faire d'autres choses. Mais la réalité, c'est que j'aimais énormément chanter. Mais vraiment, en partant au Costa Rica pendant quelques mois, en me blessant le doigt, je pouvais plus jouer. Puis là, la voix, tu l'as toujours, hein, peu importe où est-ce que t'es, là, tu l'as toujours sur toi. Puis ça, c'est une grande liberté. Même si tu chantes mal, ça soulage. Donc, j'ai commencé à chanter. Puis ce que j'aime d'avoir les deux, c'est le côté très technique du violon, mais la liberté de la voix. Là, tu peux faire n'importe quoi, puis il n'y a personne qui va te dire « Ouais, ton octave... » C'est juste l'émotion.
Mais à quel moment tu as décidé que ça allait être ça, ta vie? Est-ce que déjà à cet âge-là, c'est ce que tu rêvais de faire? C'est ce que tu voulais faire comme métier?
Ouais, à 10 ans, j'ai vu... Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Gabriel et Trois Maisons.
Ah oui.
Ouais. Ben nous, là, dans notre génération, là, des 25-27 ans, là, tout le monde avait le CD de Gabriel et Trois Maisons. Puis j'étais allée la voir au Centre culturel de Belœil à 13h de l'après-midi, un dimanche. Là. Puis je me suis dit, bon, ça y est, je fais ça.
C'est ce spectacle-là qui t'a donné le goût vraiment de faire ça dans la
vie. Oui, puis je ne l'ai jamais rencontré.
Okay.
Et elle est ici. Non, c'est vrai. Je l'ai jamais rencontrée, mais cette fille-là a changé ma vie, puis elle le sait même pas. Mais Angèle Dubois, elle le sait parce que j'ai joué l'année passée avec elle. Je reçois un appel le matin. Oui, salut Gabriella, c'est Angèle Dubois. J'aimerais t'inviter à jouer dans mon spectacle. Écoute, j'ai perdu l'équilibre. Je me suis dit, ça se peut pas. Puis là, j'ai vraiment réalisé un rêve. Gabriella des Trois Maisons, c'est pas encore arrivé.
Peut-être un jour.
Peut-être un jour.
J'y enverrai l'entrevue. On va voir ce qu'elle va dire.
Ah, wow. Hey, ça serait vraiment super.
Je vais lui écrire.
Oh, wow.
Mais quand on dit ça à sa famille, je vais faire ça dans la vie, c'est quoi la réaction?
Ben,
c'est pas simple comme métier, évidemment.
Mais c'est quoi qui est simple?
T'as raison.
C'est pas simple, mais c'est extrêmement enrichissant, tu sais. Mes parents sont super fiers. Mes parents sont... Je les adore parce qu'ils sont extrêmement libres dans leur tête. T'sais. Fais ce que toi, tu veux faire. La vie est courte. Mon père médite tous les jours pendant 40 minutes. Ma mère est dans le yoga. Puis c'est vraiment, qu'est-ce que toi, t'es bien? C'est vraiment le bien-être qui prime dans la famille. Donc, moi, j'ai tendu vers la liberté de bien-être puis de vouloir exactement être là où je veux être.
Et dans le parcours est arrivé Grégory.
Ouais.
Je ne me trompe pas au début, avec le Mondial Chorale.
Ouais.
C'était comment cette expérience-là de monter sur scène avec plein de grands artistes, évidemment québécois, mais il y a eu quelques internationaux qui sont allés au Mondial Chorale. C'est comment qu'on commence dans ce métier-là de côtoyer tous ces gens-là?
Ben, écoute, j'avais 18 ans, j'étais encore au cégep en musique. Puis là, je reçois un courriel de Grégory Charles qui me dit « J'aurais quelque chose à te proposer. Veux-tu faire partie de mon équipe? » Et là, moi, j'avais aucune expérience. Il m'a fait vraiment beaucoup confiance, mais je suis arrivée dans sa... C'est pas une chorale. On était 7 choristes à faire plein de concerts pour lui, pour d'autres artistes. Le Mondial Chorale, comme tu as dit, on a joué pour Sylvain Cossette, pour Sarah McLachlan, pour Éric Lapointe, tellement de personnes. Puis moi, dans le fond, je connaissais rien. Puis Grégory Charles, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est toujours de l'improvisation. Donc là, il joue du piano, là, nous, on est les sept, puis là, ils disent « Faites des A, parfait. Faites des O, parfait. Stop! OK. » Là, tu dois vraiment là, prendre la balle au rebond. Et ça, ça m'a extrêmement enrichi. Et tous ces gens-là avec qui j'ai commencé à travailler à 18 ans, samedi, par exemple, j'ai fait en direct de l'univers pour Mika. Et ce sont tous les mêmes musiciens qui jouent en direct de l'univers, les mêmes choristes. Donc 7 ans plus tard, non, c'est plus que ça, 8 ans plus tard, tu revois la même équipe avec qui tu as développé tes capacités. Tu sais. C'est vraiment intéressant. Le monde est petit. Là. Tu revois les mêmes personnes puis c'est super le fun.
Et d'ailleurs, plusieurs années après cette expérience-là, tu as fait Virtuose.
Oui.
Avec Grégory et Marc Hervieux.
Oui.
C'était comment ça de voir ces talents, ces jeunes talents-là, classiques, c'était beaucoup du classique, jouer, et ça permettait d'un, de mettre le classique à la télé, à heure de grande écoute, ce qui pas vraiment. C'est comment cette expérience-là pour toi?
Écoute, je pourrais te dire que c'était exceptionnel. La réalité, c'est que je trouve ça tellement stressant, la télé, là. Tu sais, t'as un micro, là.
Mais là, t'étais pas dans ton élément, en plus, t'animais,
c'est
coachais.
Ça. Ouais. Moi, j'étais habituée de chanter, de faire de la musique, tu sais. Puis là, il fallait que je commente la prestation. Puis ça sortait tellement de ma zone de confort. Tu sais, j'étais juge avec Marc Hervieux. J'avais 23 ans. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est qui m'a engagé? Mais c'est vrai! Tu sais, puis je joue du violon, mais je suis pas une virtuose, tu sais. Puis les gens qui étaient là, les jeunes qui étaient là, j'ai jamais vu autant de talent. Tu sais, 14 ans, qui est capable de faire du Paganini, ta-ta-ta-ta-ta. Puis toi, tu reviens, puis là, t'es encore en train de faire tes gammes, puis là, tu te demandes quand est-ce que tu vas réussir à
arriver à ce niveau-là. Hein?
Mais tu vas jamais arriver, mais tu dois juger ces personnes-là qui sont vraiment supérieures à toi au niveau musical. Donc, ça a été très déstabilisant parce que ces jeunes-là, ils m'ont appris que j'avais vraiment pas fini d'apprendre mon métier puis ma musique. Ouais.
Mais en même temps, ça ramène à la base aussi. Il y a un truc d'humilité, hein, quelque part, là-dedans
ben oui.
aussi.
Ben oui, oui, oui. Vraiment, j'ai pogné une claque. Vraiment, vraiment. C'était aussi de pouvoir divertir son vocabulaire parce que quand il y a trois personnes de 14 ans qui jouent du piano sensiblement la même pièce, comment tu fais pour élaborer ton vocabulaire? Tu peux dire que c'est coloré, tu peux dire que tu as vécu des émotions, tu peux dire qu'il... Mais tu sais, de vraiment essayer de mettre des mots sur ce que tu ressentais, ça aussi, ça a été un travail à développer.
L'album Étrangère est arrivé 4 ans après le premier album.
4 ans.
Mais il aurait pu être plus tôt que ça, parce qu'il était prêt 3 ans après le premier album.
Ouais.
Il était 1 an après, avant d'être lancé.
Ouais.
Pourquoi c'était long comme ça?
Hey, je sais pas ce que je peux dire à Sorel puis ce que je peux pas dire, mais je pense que je vais être ouverte par rapport à ça. En fait, tu sais, j'ai accepté de signer avec Polydor en France et bien qu'on a la même langue en France, on a tellement pas la même culture, tellement pas la même façon de travailler. Puis
non, en France, on lance des singles puis on attend.
Ouais, ouais. Moi, comme 3 mois avant de lancer l'album, j'étais pas encore sûre que j'allais réussir à lancer l'album.
OK.
Donc, je me sentais extrêmement privilégiée quand c'est sorti parce qu'il y a tellement d'artistes qui se font tabletter en France. Tu sais, c'est différent, puis faut pas les blâmer parce que c'est un gros marché, c'est différent. Mais il y a quelque chose en France que j'ai pas compris, c'est que quand tu sors une chanson, puis ça va pas bien, mais il faut attendre avant de sortir l'album. Mais quand tu sors une chanson puis ça va bien, mais il faut attendre avant de sortir l'album.
Ça change rien.
Tu sais, moi j'avais hâte de le sortir l'album. Puis je connaissais des gens qui avaient signé avec des compagnies de disques, des grosses compagnies de disques, que leur album était jamais sorti. Puis moi c'était mon gros cauchemar là. Fait que quand il est sorti, tu sais, c'est comme si t'es un enfant puis il sort jamais. Tu sais. À un moment donné, il faut que ça sorte. Puis ça faisait 3 ans que je travaillais dessus. Donc c'est pour ça que ça a été quand même assez long.
Le premier album avait été en anglais.
Oui.
Parce que tu as toujours pas mal écrit en anglais, jusqu'à ce disque-là, mm-hmm. où on t'a suggéré d'essayer. Ouais, en français. C'est pas un de tes réalisateurs, d'ailleurs, qui t'a dit...
Ouais,
qui t'a proposé d'aller là un peu.
Ben, au début, c'était une suggestion, puis j'ai pas pris ça vraiment au sérieux parce que j'étais pas prête. Mais à force d'écouter des musiques en français, à force de voyager beaucoup, j'ai voulu vraiment essayer. Puis finalement, je me suis pris au jeu parce que j'ai adoré ça. C'est un degré supplémentaire de difficulté. Et c'est extrêmement différent hein, parce que en anglais, tu vas focusser sur la musique, sur l'émotion, sur comment ça sonne ou peu importe. Puis en français, ben, il faut vraiment que tu aies les mots spécifiques pour les dire. Puis parfois, ça peut sonner vraiment pas bien. Mais quand tu réussis à trouver les bons mots, ben, tu fais des miracles. Cabrel, il fait extrêmement bien. Puis ce qui est bien avec la musique, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Donc là, je suis en train de travailler sur l'album en anglais après. Okay. Parce qu'il n'y a personne qui m'empêche de travailler un album en anglais. Je peux faire ce que je veux. Puis là, je le sens en anglais. Voilà, c'est un petit scoop.
Mais est-ce que tu as aimé ça, travailler en français?
Ouais, j'ai adoré. J'aime avoir les deux, en fait. Je ne suis pas capable de me décider. Ça a toujours été le gros combat. Parce qu'il y a tellement d'artistes en ce moment, il y a tellement d'artistes, de suggestions, de demandes, d'offres, pardon, que on te demande d'être extrêmement spécifique dans ce que tu proposes. Et moi, je suis extrêmement vaste dans ce que je propose parce que je suis pas capable de me limiter. Fait que mon violon, je veux le faire danser, je veux faire des rigodons, comme je veux faire quelque chose d'extrêmement triste. Je veux bouger, je veux être en anglais, en français. Et encore là, je vais pas me dire que je me suis trouvée. C'est un processus. Oh. Donc je me cherche encore. Puis j'essaye des affaires jusqu'à temps que je trouve le sweet spot, mais c'est difficile de... Tu sais, c'est quand même difficile pour un artiste de vraiment trouver la ligne directrice là, qui fait en sorte que... Ouf, c'est genre une case qui peut faire en sorte que tu te distingues, mais dans un élément précis, tu sais.
Et d'ailleurs, le violon a été utilisé de plein de façons sur ce disque-là. Tu l'as exploré plus que jamais, est-ce que
ouais.
Je me trompe?
Ben oui. Le violon, moi, j'ai toujours pensé que c'était vraiment mode classique. Puis ça fait mal au dos, le violon. Fait que ça me fait un break quand je l'utilise en guitare. Premièrement, je fais des pédicatos, mais je le fais dans toute la musique pop que je fais. Donc parfois, il y a de la musique qui bouge, mais on entend un « toum, 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 toum ». Je le joue, je tape comme une caisse claire sur mon violon aussi. Je le moffe comme une guitare. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute des effets. Puis dans toutes les chansons sur l'album, on l'entend quelque part, mais on s'en rend pas nécessairement compte. Fait qu'il y en a partout, mais de façon différente. Donc, ça a vraiment été un beau travail de découvrir. C'est comme un couple après 30 ans. Tu peux encore découvrir plein de choses sur la personne. Mais mon violon, ben écoute, ça fait une relation de 20 ans. Hein, puis je découvre toujours quelque chose.
Et ça te permet de ne jamais te tanner, probablement, du violon, en l'essayant de plein de façons.
Ah oui.
Ça permet ça.
Hey, puis c'est dur à apprivoiser parce que, mettons, là, ça fait 4 jours que j'ai pas joué, là, puis je sais que demain, je vais prendre mon violon, puis ah, ça va pas marcher parce que ça va faire 4 jours. C'est toujours... Tout est toujours à refaire, là, tu sais.
Donc, il faudrait encore, comme quand tu étais petite, que tu en fasses tous les jours au moins 15 minutes.
Mais même si tu en fais tous les jours, il y a des journées que ça marche moins bien parce que tes émotions... Parce que, à cause de l'humidité, c'est extrêmement complexe, le violon, hein. Tu sais, comment tu vas manipuler ton archet? Si les crins sont adéquats, si tu as mis assez d'arc-en-son, si les cordes sont bonnes, si la température est adéquate, si ta main est correcte, comment tu le sens? C'est tellement complexe. Là. C'est l'instrument le plus complexe. Là. Puis à chaque jour, tu dois réapprendre cet instrument-là. Tu
as fait En direct de l'univers la semaine dernière
ouais.
Pour ton coach de The Voice.
Ben oui!
Mika. Est-ce que tu l'avais revu? Depuis 2016?
Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vus. J'aimerais juste démystifier quelque chose par rapport à The Voice France. C'est que probablement, j'imagine à La Voix en France, au Québec, c'est peut-être plus intime, c'est moins gros. T'sais. En France, t'sais, oui, c'était mon coach, mais c'est pas vraiment lui qui m'a marqué parce que le temps est très restreint. De coaching.
Tu le vois pas tant que ça, finalement.
pas tant que ça, c'est vraiment pour la télé, mais il y a quelque chose de vraiment, vraiment le fun d'être avec Mika, parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans, 14 ans que j'écoute ses chansons. À un moment donné, j'étais allée manger chez lui aussi, à la fin de l'émission, puis là, je me rappellerai toujours, je me suis dit, mon Dieu, j'étais en train de manger du poulet tadiki chez Mika devant la Tour Eiffel. Comment c'est possible? Ça, je me rappellerai vraiment toute ma vie. 4 ans plus tard, je la revois en direct de l'univers. Donc, c'est drôle parce que on s'est pas parlé, mais tout le monde me parle de lui. Donc, nécessairement, il fait partie de ma vie. Parce qu'on me pose toujours la question, comment était Mika? T'étais dans l'équipe de Mika. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette relation? Une relation qui est quand même très, très, très distante, tu sais. Je peux pas appeler ça une relation, mais j'ai presque l'impression que c'est une relation parce que je parle toujours de lui, donc d'être en direct de l'univers, de le surprendre comme ça, puis il était extrêmement content, ça m'a réjoui, ben oui.
Parce que 4 ans plus tard, il y en a vu du monde, là,
oui, mais l'audition à l'aveugle, justement, tu sais, avec les visionnements, tu sais, je pense que ça l'a quand même aussi peut-être un peu marqué de son côté. Donc, de le revoir, ça a été un peu comme un hommage de pouvoir dire, regarde, moi, je suis rendue sur ce plateau-là grâce à toi, tu sais. Fait que je vais t'honorer comme je peux, tu sais. Avec le peu de temps qu'on avait, parce qu'il y avait, il y avait énormément de bons artistes. Là, il y avait Annie Villeneuve, Jonas, Brigitte Boisjoli, beaucoup, beaucoup de monde.
Tantôt, on a entendu On cherche encore, qui tombe beaucoup à la radio. Est-ce que c'est flatteur à chaque fois que les chansons embarquent sur les radios et que ça commence à tourner un peu partout?
Hey, moi, j'aime tellement cette sensation-là d'être dans un centre d'achat, là, où... Même dans un dépanneur, tu sais. Puis là, t'attends, là, t'es en caisse, là, puis là, t'entends ta chanson, puis là, t'as envie de dire à tout le monde,
« C'est moi!
» Hey, je me rappelle, à un moment donné, j'avais un article. Ah oui! À un moment donné, il y a 4 ans, j'avais fait la première page du Journal de Montréal. Puis là, on était au dépanneur avec mon père, puis là, je fais, ah, « En tout cas, t'as-tu vu ça? » Puis là, tu sais pas comment exprimer, tu sais, que c'est comme unique, qu'une journée unique pour toi, tu sais, mais ça fait ça à la radio aussi, là, quand t'entends tes chansons, c'est toujours c'est bon quand même, hein? <T'sais>, je pense que ça fait ça pour tous les artistes,
c'est
t'sais.
Sûr,
je peux pas croire, c'est Céline Dion quand elle s'entend, elle fait tu ah si bol encore,
ben, elle s'entend beaucoup,
ma toune, tu sais, ou elle fait comme ah, tu sais, je sais pas,
ça,
mais moi, pour
spécial,
moi, je suis très reconnaissante. Peut-être que pour des gros artistes, ils sont un peu tannés, mais il devrait pas.
Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es entendu à la radio, première fois de toutes?
Ben oui, parce qu'on a immortalisé le moment. C'est sur YouTube. Là, si on écrit « Gabriella entend sa chanson à la radio pour la première fois », pour ne pas nommer le compétiteur Rouge FM, je me rappelle, à un moment donné, il est 7h du matin, il y a mon gérant, mon ex-gérant, Sam, qui me dit... On te convoque à une réunion à 7h du matin dans un restaurant. Moi, je sais pas trop ce qui se passe. Puis là, finalement, oh! Là, j'entends ma chanson. Puis ça a été vraiment un gros moment marquant. Puis c'est le fun de l'avoir sur caméra.
À quel moment on réalise que ça ne nous appartient plus, en quelque part? Que cette musique-là va vivre sans nous? C'est pas comme la scène sur disque. Il y a quelqu'un quelque part qui écoute ton disque. Puis t'es pas là dans cette expérience-là. À quel moment on réalise que... ça va vivre et les gens vont y faire leur propre signification de ces chansons-là.
Ben c'est jusqu'au dernier moment, tu sais. Jusqu'au dernier moment, c'est à toi. Puis là, tu peux encore faire des modifications. Là, tu te dis, si jamais les gens, ils pensent ça. Puis à un moment donné, quand ça sort, on dirait que tu te détaches de ça, puis t'arrêtes de dire, est-ce que les gens aiment... Tu sais, on dirait que t'arrêtes de penser à ça, puis pouf, ça s'en va, tu sais, c'est... Je sais même pas comment le dire. Ah oui. Peut-être un exemple. Mettons, une professeure d'école, là, de primaire, là, t'sais, elle encadre ses enfants, mais à un moment donné, quand ils passent dans une autre année, hein, c'est plus sa responsabilité, puis elle doit se concentrer sur d'autres choses. C'est un petit peu comme ça, t'sais. C'est drôle à dire, mais t'sais, quand t'es artiste, des chansons, c'est vraiment tes bébés, t'sais. Est-ce que tu rajoutes plus de ça? Est-ce que tu fais plus de ça? T'sais, t'es peaufine, puis parfois, ça peut prendre... une journée composer une chanson, mais parfois ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. T'écris quelque chose, tu le laisses dans un tiroir. Fait que ça revit tout le temps.
Est-ce que c'est dur donc à laisser aller un disque? Parce que comme tu le dis, on peut travailler tout le temps dessus et on sera jamais 100% satisfait, j'ai l'impression.
Jamais. Jamais. Je réécoute mes anciennes choses puis je me dis, ah!
J'aurais pu faire ça.
Ouais,
j'aurais pu enlever ça, j'aurais pu rajouter ça.
Ouais. Quand tu sors quelque chose, tu te dis « Ah, oh, je pourrais jamais faire mieux. » Puis après, tu te dis « Mon Dieu, j'aurais tellement pu faire mieux. » Tu sais, c'est ça qui est beau dans l'évolution. Tu sais, c'est un peu comme tout, là. Un peu comme tout, là. Quand tu... Tu sais, dans, je sais pas, là, tu regardes une photo de toi dans les années 90, là, tu te dis « J'étais persuadée, là, que j'étais vraiment, là, tu sais, physiquement hot. » Puis là, tu te regardes 2 ans après, tu fais « Oh boy. » Tu sais, c'est toujours comme ça.
Ah, oh, ouais.
Puis, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il y a
mais
plein de choses
qu'on se dit. C'est difficile de lâcher prise, de dire « OK, ouais, ben c'est bon, maintenant, ouais. Ça, il va sortir
mais,
comme ça. »
Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que, tu sais, mettons, étrangère, ça a pris 4 ans. Puis justement, je l'ai tellement gardé, mais ça, je veux pas revivre ça. Parce que j'ai eu le temps de me dire « Oh, est-ce que finalement, c'est la bonne chose? » Puis de trop se poser de questions, c'est pas bon, tu sais.
Bon,
la prochaine fois...
plus
oui.
Quand on se pose trop de questions.
Oui. Fait que l'album que je veux sortir... Il va sortir bientôt.
OK.
Puis je me pose pas de
bientôt
questions.
Bientôt quand?
Ben bientôt.
L'année
ça
prochaine.
Va dépendre de l'actualité.
Oh,
mais oui. Bientôt, j'aimerais ça en sortir peut-être cette année. Pourquoi okay. pas, tu sais. Puis en fait, ça fait longtemps qu'il est prêt l'album presque. Fait que je veux pas me poser de questions. Puis c'est, au bout du compte, c'est ça qui est authentique, le plus authentique, tu sais.
Si les gens veulent te suivre, c'est sur le web qu'on a toute l'information, mm-hmm. tout est là.
Ouais, puis j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de contenu aussi pour que les gens puissent avoir accès à la maison. Puis je suis très disponible, je réponds à tout le monde aussi. Mais il y a quelque chose de tellement impersonnel sur les réseaux sociaux. Je préfère voir les gens en concert, au restaurant comme ça. C'est beaucoup plus humain. Donc, je préfère le contact physique.
Merci d'avoir été là.
Hey, merci tellement. Vraiment, merci beaucoup. C'était super.